Cours de philosophie de l'art par le père Marie-Dominique Philippe, le 17 mars 1983 à Rimont.
Pour ne pas l'oublier, on demande qu'à 6h15. À 4h15. Maintenant, c'est 4. C'est quelle heure? 4h. Je crois que c'est à fait à 6h15. Vous êtes libre à 6h15, non? Bon, alors à 6h15, toute la communauté à la chapelle pour chanter le Salve Regina. Pour la gloire de la Sainte Vierge. N'oubliez pas, l'intention profonde. Et la seconde chose, convertir les pécheurs. C'est ça, convertir les pécheurs. Si on accepte, chose, c'est pour convertir les pécheurs. Donc, c'est partie d'une mission apostolique. Alors, 6h15. Hein. Parce que l'office, c'est à 6h30, je crois. Hein. C'est ça. Alors, je continue pour entrer dans ce que représente le point de vue du Fatschere dans son développement de l'inspiration au choix créateur. Vous avez dit que c'est une phase très difficile. Parce que quand vous demandez aux artistes, ils ne vous donnent jamais d'explication. Alors, il y a les philosophes qui ont pensé à ça, et les philosophes, ce n'est pas les artistes. Il y a Valérie, qui est à la moitié mi-philosophe, mi-artiste, mi-matheux. Ça fait un cocktail particulier, Valérie. N'est-ce pas? Intéressant, du reste. Mais qui n'est peut-être pas toujours exactement ce que c'est, ce passage de l'inspiration au choix créateur. Je vous ai dit, l'inspiration est le possible, le passage du possible au nécessaire. Et c'est là où sommes-nous l'idéal. Comment se fait ce passage? L'inverse, hein, l'inverse d'une certaine manière, l'inverse de ce que représenterait une induction. Le choix créateur est quelque chose de plus concret, et l'inspiration, le possible, les possibles qui nous sont donnés dans l'inspiration, et qui sont d'une certaine manière la source. L'inspiration est source. L'inspiration vous rajeunit, toujours. Tandis que le choix créateur, il vous noue. On est noué par le choix créateur. Un artiste est noué par ce choix créateur. Et ce choix créateur s'impose comme une nécessité. On ne peut pas dire que le choix créateur de l'artiste lui apparaît comme une liberté absolue. C'est la très grosse différence du choix-élection. Dans le point de vue éthique et le choix créateur qui s'impose de l'intérieur. L'artiste ne dira jamais qu'il a choisi ça. Mais il le dira de temps en temps. Il dira justement, je ne savais pas très bien ce qu'il fallait faire, j'ai fait ça. Mais ordinairement, il dit, je ne pouvais pas faire autrement. Ordinairement, c'est comme ça. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est quelque chose qui s'imposait. Et c'est quelque chose qui s'imposait à partir de l'inspiration qui porte sur le possible. Il y a quelque chose de nécessaire qui apparaît. Alors, comment se fait ce passage? Ce n'est pas un passage volontaire. Ce n'est pas un passage volontaire. La volonté n'intervient pas là-dessus. C'était la volonté, justement, ce serait libre. Ce serait un choix libre. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qui s'impose. Nous avons tous un peu ressenti ça dans la mesure où nous avons réalisé quelque chose. À la mesure où on a réalisé quelque chose, on a tous senti ça, plus ou moins. Des jours où on n'est pas très inspiré, alors on sait très bien. On prend son inspiration à droite et à gauche, c'est pas. Et à ce moment-là, on fait une espèce de magma. Puis on dit, oh, bah, tout, je peux sortir ça. C'est pas plus mal que ce que les autres font. Ça, c'est le raisonnement le plus magnifique qui existe. C'est pas. Alors, c'est pas plus mal que ce que les autres font. Ça prouve qu'on n'a aucune inspiration. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de choix créateur, vous voyez. On fait ça parce que On est forcé de le faire. Il y a une commande. Et celui qui est obligé de chanter parce qu'il est chantre alors là, commande impérieuse, de l'impératif catégorique divin qui vous dit allez-y. Et là, on ne vous en voit du tout. N'est-ce pas ? Juste au moment où on aimerait avoir un peu plus de recul. C'est vrai, c'est pas artistique du tout. Au point de vue artistique, on se dispose. Vous remarquez que les artistes sont quand même très souvent obligés de... Ils sont commandés. Hein. L'art liturgique, il y a les œuvres. Et même l'art habituel, il y a aussi les œuvres. On peut s'y disposer. On peut s'y disposer. L'art liturgique par la prière, l'art autrement du chant et choses, on s'y dispose d'une autre manière. N'est-ce pas ? Alors, on sent très bien que les dispositions sont autrement. Mais il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui n'est pas. C'est pour ça que l'artiste qui lui-même peut exécuter pour lui-même, comme un peintre, n'est pas contraint à ça. Celui qui donne un concert, il est contraint. Tandis que le peintre, non. Un sculpteur, non plus. C'est une espèce de liberté extraordinaire. Pendant une journée, il pourra tourner dans son atelier indéfiniment, cherchant l'inspiration. Puis, d'un certain jour, immédiatement, il est pris, saisi. Et alors, à ce moment-là, il y a le passage de l'inspiration au choix créateur. Vous voyez, ce n'est pas du tout un choix libre, hein. Et ce choix créateur fera passer directement au travail, sans l'impérium. Il n'y a pas d'impérium. Le choix créateur passe au travail sans impérium. Ça, c'est très étonnant. Et c'est intéressant de voir ça, parce que ça, c'est tout le fatchéré. C'est tout le fatchéré qui est en dehors. Il y a un volontaire. Il y a un volontaire, on a essayé de comprendre, on essaie de reprendre. Il y a un volontaire dans le travail, il y a un amour dans le travail, il y a un volontaire. Mais ce volontaire du fatiré n'est pas du tout le même que celui de la génie. C'est pour ça qu'ordinairement, et les philosophes ordinairement, ont regardé le volontaire uniquement du côté moral. Saint Thomas serait assez comme ça. Regardez le volontaire uniquement du côté moral. Et le reste, on dit, plus carrément. Alors c'est frotter sa barbe. Alors, frotter sa barbe, c'est du fatchéré, c'est pas de l'agir, ça. Donc, il n'y a pas de volontaire là. Alors que je crois qu'il y a le fricaré barbame qui est l'instinct. La barbe grandit, et alors parce qu'elle grandit, on se frotte la barbe, n'est-ce pas ? Donc c'est instinctif. Et puis il y a le geste profond du point de vue volontaire à l'intérieur même du fatueré. On aime son travail. On veut travailler. On s'applique. Enfin, vous allez dire que ça c'est l'intervention de l'usage et du point de vue moral, pas entièrement. Et c'est très très subtil et c'est très difficile à préciser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'entre l'inspiration et le choix créateur, on ne peut pas dire qu'il y a un volontaire. Ça, c'est pas chéré d'arriver. L'exercice particulier, c'est elle aime l'inspiration. Dégringolade. Vous la voyez pas, moi je la vois, c'est mon privilège. Elle est très belle, vous pouvez rester là comme ça. Alors, donc, on passe de cette inspiration au choix créateur, ça se fait en dehors de la volonté, et c'est quelque chose qui s'impose de l'intérieur. À l'intérieur même de l'inspiration, il y a un choix créateur. Au milieu des possibles, il y a un possible qui devient nécessaire. Alors, comment se fait ça ? Comment ça se fait ? Le philosophe doit constater. L'inspiration porte sur les possibles, le choix créateur porte sur quelque chose de nécessaire. Et il n'y a pas de volonté entre les deux. De la vie de tous les artistes, c'est comme ça. Quand ils ont réalisé leur œuvre, ils vont demander, mais pourquoi vous avez choisi ça ? Ils rigolent quand ils demandent ça. Ce sont des questions de Béotien. c'est très bien, c'est quelqu'un qui est tout à fait en dehors qui pose ça. On ne devrait pas poser cette question-là à un artiste. Mais regardez, comprenez. Ça s'impose. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est quelque chose d'absolu qui s'impose de cette manière. Alors évidemment, vous voyez, dans l'art culinaire, c'est autre chose, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, moi, j'ai différentes possibilités de menu. Alors, on ne va pas attendre l'inspiration et du choix créateur pour dire, voilà le menu qui s'impose. Non, non. Parce que là, vous voyez, c'est un art qui est soumis à la famille. Alors, il faut que ce soit cuit à telle heure. Alors, même s'il n'y a pas d'inspiration, ce sera cuit. Donc, alors, à ce moment-là, vous n'attendez pas. Donc, c'est pas. Parce que c'est un art qui est soumis à autre chose. Tous les arts, le point de vue de l'éducation, le point de vue de l'instruction, le point de vue de l'agriculture, tous ces arts-là sont des arts qui sont relatifs aux choses. Ce n'est pas l'art pleinement art. Alors, intervient de la gérer, constamment. Parce que c'est inclus dans une communauté, c'est inclus dedans. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'art, et ça prend de la peinture, parce que c'est peut-être là, le peintre est d'un des artistes les plus libres. Ça, je crois. Parce qu'il est beaucoup plus libre de l'exécution que n'importe quel autre. Le sculpteur aussi. Et alors, c'est chez eux que peut-être on trouve le mieux ce caractère très particulier de l'inspiration qui subitement va devenir quelque chose qui va s'imposer comme du nécessaire. Alors, comment le possible peut-il venir du nécessaire? Vous voyez, à ce moment-là, si ce possible apparaît comme nécessaire, il faut donc qu'il soit en acte. Qu'est-ce qui vient actuer le possible? Tout possible est ordonné à l'acte, hein, au point de vue métaphysique. Quand je regarde la métaphysique de l'acte et de la puissance, je dis tout possible est ordonné à l'acte. Et ici, je vois que du possible ou de ces possibles qui sont dans l'inspiration, tout d'un coup, il y en a un qui va s'imposer à moi. D'où ça vient? D'où vient que c'est ce possible particulier qui va s'imposer comme un absolu? Et ceci à l'intérieur, sans du tout que la volonté intervienne. Très difficile de voir ça. Et c'est très intéressant au point de vue philosophique, vous voyez? Parce que c'est une des rares actuations du possible qui se fait de l'intérieur. Qui ne se fait pas en faisant intervenir un autre chose. Vous n'allez pas me dire, ah, c'est autre chose qui va intervenir. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose qui intervient. C'est de l'intérieur que l'inspiration va s'imposer comme quelque chose d'absolument bien. D'habitude, le possible ne peut s'actuer que par l'acte qui est extérieur. Alors vous voyez très bien. Et vous comprenez très bien comment ça s'actue par quelque chose extérieur. Un événement particulier est arrivé. Et l'événement de l'araignée. Alors, ça fait partie. C'est un événement. Quelque chose de tout à fait nouveau qui arrive. Donc, juste dessus. Alors là, je comprends que ça actue. Un événement peut actuer. Mais là, ce n'est pas un événement. C'est une concentration, comme dit Rilke. C'est une concentration chez le poète. Chez le poète, on trouvera exactement la même chose. Vous voyez, le poète, le peintre, le sculpteur, vous retrouvez ça. Parce que le poète n'est pas obligé de tout de suite être sur la scène et de dire son poème. On le laisse tranquille. Et quand son poème est fait, bon, très bien, il pourra le réciter, mais pas avant. Donc, il y a un moment où il passe de tous les possibles vers le point de vue d'un choix créateur qui s'impose. Et qui s'impose à l'intérieur. Alors, comment ça se fait? Moi, je crois qu'il faut bien saisir, parce que c'est, je vous dis, c'est le cas tout à fait particulier d'un possible qui s'actue par l'acte. Alors c'est très intéressant, vous voyez, parce que si je ramène toute la connaissance à la connaissance artistique, vous direz que le possible s'actue de lui-même. C'est évident. Quand il s'agit de l'art, c'est ce qui se passe. Le possible s'actue de lui-même. Donc toute la métaphysique de l'acte et de la puissance, là, semble quelque chose de tout à fait dévié. Quand il s'agit d'un devenir, le possible est antérieur à l'acte. C'est très vrai. Mais il s'agit d'un devenir, là. Hein? Parce que l'inspiration, choix créateur, travail, œuvre. Et donc, de l'inspiration à l'œuvre, il y a un certain devenir. Et il y a un certain devenir. Donc, je comprends que le possible soit antérieur à l'acte. C'est normal. parce que je suis dans un devenir. Mais que ce passif s'actue lui-même, ça c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Pourquoi ? Je suis en face d'un signe vivant. Ça je peux le dire. Le poète, le peintre, qui a une inspiration, qui essaie de réfléchir sur son inspiration, qui essaie de savoir ce qu'il va réaliser à travers cette inspiration, il se meut. C'est un vivant. Un vivant au niveau de l'esprit. C'est un signe avéré. Et c'est peut-être ça qu'il va expliquer. Voyez. C'est que, de fait, l'inspiration a sa source, nous l'avons dit, dans l'intelligence qui illumine l'imaginaire. Voilà la source de l'inspiration. Alors, comprenez bien, ce n'est pas le possible qui s'actue. Ça a l'air d'être ça. Non, c'est la source du possible qui va actuer tel possible. Là, il n'y a plus de contradiction. Et je retrouve tout simplement le fait que, étant dans un devenir, je passe de l'inspiration à l'œuvre, il y a toute une transformation, il y a tout un mouvement, donc il y a tout un devenir. Le possible est premier, c'est très vrai. C'est toujours comme ça dans l'ordre du devenir. Dans leur devenir individuel, le possible est premier. Et le possible demande d'être actué par un autre, qui n'est plus possible. Et il est actué par quoi ? Par la source de l'inspiration. Donc, quand je dis que l'inspiration est source, attention, oui, l'inspiration est source. Et le possible, c'est le fruit. Et ce fruit, il n'est pas source. Et ce fruit va être actué par la source même de l'inspiration, c'est-à-dire par l'inspiration elle-même. Puisque l'inspiration et la source de l'inspiration, ça revient au même. Je peux simplement distinguer le fruit de l'inspiration, quelque chose qui est distinct de cette source. Et ce qui est distinct de cette source, c'est justement cette source de l'inspiration qui est l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a la concentration. Et Rilke a tout à fait raison de dire tout ça. C'est que pour passer de l'inspiration au choix créateur, il faut une très grande densité de réflexion. Ça ne se fait pas tout seul. Si je suis dans une attitude de détente absolue, ah, moi j'aime la détente, je suis inspiré, je suis détendu, il n'y aura jamais de choix nécessaire. Il n'y aura jamais de choix créateur. L'inspiration pourra passer. Vous voyez, il y aura l'analogue, c'est très curieux, l'analogue de la velléité. L'imaginaire peut très bien corrompre une inspiration. Ça peut se faire, ça c'est évident. Vous voyez, celui qui est trop libre, « Oh, moi je suis très inspiré, moi, je n'ai pas besoin d'y réfléchir, ça vient. » Et alors, l'imaginaire corrompt l'inspiration. Pour que l'inspiration soit féconde, c'est-à-dire pour que l'inspiration se noue autour du choix créateur, il y a un effort de réflexion. Et cet effort de réflexion, c'est l'intelligence. Alors là, ça devient très intéressant. Dans le choix créateur, il y a plus d'intelligence que dans l'inspiration. C'est la victoire de l'intelligence sur tous les possibles. Et c'est l'intelligence qui va actuer ce choix créateur. C'est pour ça que ça exige, entre l'inspiration et le choix créateur, une certaine réflexion. On doit s'arrêter, on doit réfléchir, on doit y penser, et fortement. Et les grands artistes, on les voit, qui à ce moment-là se concentrent. C'est leur méditation. C'est une phase méditative, ça. Et s'il y a une méditation très intense, le choix créateur sera bon. C'est très très curieux, cette sélection qui se fait par l'intelligence. C'est l'intelligence qui fait cette sélection à travers tous ces possibles qui sont dans l'imaginaire. Et cet imaginaire qui passe à travers tous les sens, qui va dans tous les sens. Eh bien, c'est l'intelligence qui elle-même... Alors, c'est curieux ça, hein. C'est l'intelligence qui elle-même, à l'intérieur de ses possibles, va sélectionner naturellement. Et c'est là où vous verrez le vrai poète, le véritable peintre. Et vous voyez là combien hein, l'activité artistique est liée à l'intelligence, beaucoup plus qu'à l'affectivité. On ne dira pas du tout c'est celui qui aime le plus, pas du tout. C'est pas du tout celui qui aime le plus qui pourra passer de l'inspiration au choix créateur sans tomber dans une espèce de corruption de son inspiration. Donc dans l'analogue à la velléité. Parce que ça existe, ça. Hein. Vous voyez des artistes qui ont des inspirations véritables et qui ne produisent jamais rien. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque pas d'inspiration. Il leur manque une concentration. Ils ne savent plus réfléchir. Ils ne savent plus passer à la phase de méditation. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça existe, hein, beaucoup. Alors c'est pour ça qu'on dira de l'inspiration, pas besoin de choisir. Alors l'inspiration, très bien, c'est instinctif, faites tout, n'importe quoi. Alors vous avez un art spontané d'inspiration. Peut très bien aller avec la queue d'un âne qui pend. Et ça peint admirablement, parce que c'est l'instinct de l'âne qui sent qu'il a quelque chose derrière. Alors, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Mais alors, il n'y a plus du tout d'art. C'est plus de l'art du tout, ça. C'est un jaillissement de quelque chose, oui, un petit quelque chose au début, une petite inspiration au début qui a fait de l'originalité, qui a fait une fantasia originale, une fantaisie invraisemblable. C'est pas l'art. L'art, c'est pas la fantaisie. C'est pas du tout. L'art, c'est pas du tout la fantaisie. L'art, c'est que l'art implique l'imaginaire, que l'art implique l'inspiration, c'est sûr. Mais c'est plus que l'inspiration. À l'intérieur de l'inspiration, qui donne les possibles, il y a une concentration. Et ça, c'est la méditation. Et cette concentration va mettre en pleine lumière ce possible qu'on choisit, qui s'impose comme quelque chose de nécessaire. En réalité, ce n'est pas du nécessaire, c'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose qui s'impose comme du nécessaire. C'est l'intelligence qui saisit à travers les possibles celui qui lui est le plus comme naturel, je crois. Quand c'est véritablement le fruit d'une méditation et que ce possible est vraiment lié au nécessaire dans un choix créateur. Alors il y a là quelque chose de très spécial, très particulier et très impressionnant du reste. Parce que là, vous voyez bien que le point de vue de l'art lié à l'intelligence, à une intelligence qui doit elle-même déterminer le possible. Vous comprenez bien, si c'est vraiment l'imaginaire et l'imagination, si c'est vraiment l'imaginaire et l'intelligence qui est source de l'inspiration, vous comprenez bien, dans le prolongement de l'inspiration, c'est l'intelligence qui progressivement domine l'imaginaire. Et vous verrez ça surtout dans l'art classique, ce qu'on appelle l'art classique. Parce que dans l'art romantique, justement, la fantaisie apparaît beaucoup plus. Et on voit très bien que la phase de concentration est beaucoup moins forte. Et ça se verra jusque dans l'œuvre. Vous comprenez que si le choix créateur provient de l'intelligence et provient près d'une force de concentration, l'œuvre aura quelque chose de beaucoup plus profond. Il y aura dans l'œuvre quelque chose qui va aller beaucoup plus loin, parce que ce sera beaucoup plus relié à l'intelligence. Et dans la mesure où c'est relié à l'intelligence, il y a quelque chose de bien plus universel. Vous comprenez que si dans le choix créateur, c'est la victoire de l'intelligence sur l'imaginaire qui fait que le possible devient nécessaire, c'est donc la victoire de l'intelligence qui demeure toujours dans l'imaginaire. On va dire que c'est l'intelligence qui sort de l'imaginaire. Alors ce serait plus l'inspiration. C'est à l'intérieur de l'inspiration que ça se fait. C'est donc à l'intérieur de l'imaginaire que l'intelligence devient de plus en plus victorieuse. Je crois que c'est pour ça que, vous voyez, quelqu'un comme Plotin dites le beau, c'est la victoire de la forme sur la matière. Et on pourrait dire ici que c'est la victoire de l'intelligence sur l'imaginaire. Il y a quelque chose comme ça. Mais à l'intérieur de l'imaginaire, il y a une victoire de l'intelligence qui fait apparaître quelque chose qui est absolu. Alors quelque chose qui me séduit, parce qu'il y a une séduction, c'est bien l'intelligence. Quelque chose qui me séduit d'une manière très particulière. Une séduction, je ne suis pas séduit par les possibles, je suis séduit par le choix créateur. C'est ça qui s'impose. Et donc il y a une séduction de l'intelligence à travers ces possibles. Et vous voyez donc l'action de l'intelligence. L'intelligence va ordonner ses possibles, elle-même, de l'intérieur. Alors vous allez me dire, l'intelligence, elle se meut, oui, elle se meut, elle a ordonné la vérité. Mais elle est ordonnée aussi à une œuvre. Elle est ordonnée aussi à du vraisemblable. Elle est ordonnée aussi à réaliser quelque chose. L'intelligence liée à l'imaginaire est une intelligence qui est ordonnée à l'œuvre. Et donc, on comprend comment ce choix créateur est tout entier tourné vers l'œuvre. Et tout de suite, il demandera l'exécution. Ce choix créateur réclame l'exécution parce qu'il est commandé par une intelligence pratique. Ce n'est pas l'intelligence spéculative liée à l'imaginaire, ça serait les mathématiques. Et les mathématiques ne demandent pas l'application immédiate. Tandis qu'au contraire, ici, il y a une application immédiate parce que vous en demandez l'intelligence pratique, l'intelligence qui veut réaliser quelque chose, l'intelligence efficace, elle est pratique, elle est efficace. Lié à l'imaginaire qui fait que quelque chose s'impose de plus en plus de l'intérieur comme du nécessaire et ce nécessaire va pousser jusqu'au bout de l'œuvre. Et je crois que c'est cela que nous devons dire. Hein. Encore une fois, c'est pas commode parce que les artistes n'expliquent pas beaucoup. Mais nous devons essayer de comprendre à travers le point de vue de l'inspiration, c'est plus facile l'inspiration. À travers l'inspiration, voir qu'est-ce qu'il y a comme ligne dans l'inspiration, ordonnée à l'œuvre. Une inspiration qui serait uniquement une inspiration, et c'est là, vous voyez, où je dirais ce que Maritain dit n'est pas tout à fait juste. Quand Maritain dit que l'inspiration c'est une intuition poétique, et que l'intuition poétique n'a rien à voir avec la techné, c'est-à-dire avec l'art, c'est-à-dire avec la réalisation. On aurait pour Maritain, vous voyez, cette chose très curieuse, d'une inspiration qui est une intuition poétique. Et cette intuition poétique est tout à fait première. Elle se retrouve dans tous les domaines, même dans la métaphysique. Il y a des métaphysiciens qui ont des intuitions poétiques. Il y a des métaphysiciens qui n'en ont pas. Et seule l'intuition poétique permet vraiment l'intuition de l'être. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment cette intuition poétique, elle est au niveau de l'intelligence imaginative, et alors pour Maritain, elle est coupée complètement de la technique. Ce que je ne crois pas du tout. Parce que je ne vois pas comment Maritain peut ensuite voir le choix créateur. Le choix créateur est dans le prolongement du point de vue de l'inspiration, et c'est le choix créateur qui commande l'œuvre. Or, le choix créateur est lié au possible, est lié à l'inspiration. C'est donc la question du choix créateur qui fait le lien entre le point de vue de l'inspiration et le point de vue du travail. Et ça, c'est sûr. Vous vous mettez à travailler quand vous êtes décidé à faire quelque chose. Et donc, quand déjà la décision est prise, c'est-à-dire déjà quand il y a une idée, j'ai une idée, j'ai un projet. Et quand j'ai ce projet, je peux alors à ce moment-là m'appliquer. Oui. Ça fait comprendre aussi, c'est encore autre chose, c'est pour toujours un petit peu saisir ce moment si difficile. Regardez dans Platon. Platon l'a saisi, ça. Parce que chaque œuvre de Platon présuppose une inspiration et c'est un choix créateur. Alors Platon le dit admirablement à sa manière, mais selon un mode un peu trop mythique, un peu trop symbolique, ce que je vous disais la dernière fois. Quand dans un grenier, vous secouez le grain, alors au bout d'un certain temps, le grain se met au-dessus, et puis toute la paille, tout ce qui enveloppait le grain se met à l'extérieur. C'est joli comme formule. Vous voyez, c'est l'inspiration est possible. Il y a des semences là-dedans. Maintenant, il faut que ça se purifie. C'est toi qui as tout le reste est implanté. Mais Platon n'explique pas comment ça se fait. Il va se secouer, hein, très bien. Secouez votre tête, hein, vous allez trouver quelque chose, au bout d'un certain temps, la paille va partir, la semence va rester, votre sang n'arrivera jamais du tout. Donc il n'explique pas, parce qu'il ne voit pas la cause de l'inspiration, il dit que c'est les muses. Alors évidemment, ce sont les muses, c'est facile à expliquer, ça. On dit les muses quand on ne veut pas dire d'où ça vient, n'est-ce pas? Alors on dit les muses. J'étais habité par les muses pendant cette matinée, c'est très très bien. Mais les muses, et il y a très longtemps que les muses ne sont pas venues me rendre visite. Je comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous êtes resté sec devant votre feuille de papier, vous n'avez rien produit du tout. Alors vous n'avez pas été habité par les muses. Habité par les muses, c'est-à-dire tout simplement par une inspiration. Ça vient, ça ne vient pas, ça ne se commande pas, ça ne se commande absolument pas. Et on peut avoir des périodes très très longues où il n'y a pas d'inspiration du tout. C'est très ennuyeux. Pour les examens, c'est très ennuyeux pour les dissertations qu'on doit faire, c'est très ennuyeux pour le travail qu'on doit faire, mais on est bien obligé. Oui. Si on était tout à fait libre, oui. Si on était tout à fait libre, on dirait, écoutez, je vais vous rendre mon travail une fois que l'inspiration sera là. Dites ça à la secrétaire de la faculté de théâtre. J'ai pas eu encore d'inspiration, alors j'attends. Mais non, je peux pas dire ça. Je suis obligé de réaliser la chose. On est obligé de réaliser. Alors, c'est pour ça qu'il faut, je crois, revenir toujours à la source de l'inspiration, l'intelligence présente dans l'imaginaire, et l'intelligence qui travaille l'imaginaire, qui travaille tous les possibles. Elle est présente dans ces possibles. Et parce qu'elle est présente dans ses possibles, elle peut les ordonner selon un critère particulier. C'est ça le critère particulier qui me semble extrêmement difficile à préciser. Il faut bien qu'elle précise selon un critère particulier. L'intelligence précise toujours, soit en vue de la vérité. Bon, j'ai un critère. En métaphysique, j'ai la saisie des principes. Mais ici, l'inspiration me donne beaucoup de possibles, jamais un seul, beaucoup de possibles, toujours la possibilité de réaliser ça. C'est pour ça que Valéry dit qu'on aimerait pouvoir réaliser en même temps tous les possibles qui sont dans l'inspiration. Donc, ne jamais choisir, parce que c'est pas possible. Dès que vous passez à l'exécution, vous devez nécessairement faire ça. Un sort à certains, les accepter, et les autres les rejeter. Donc, vous choisissez, même si de fait, vous avez l'impression de ne pas choisir du tout. Donc, il y a une sélection qui se fait. Alors, cette sélection, elle se fait au nom de quoi? Tout possible a une signification. Une signification qui vient du sujet, si vous vous souvenez ce qu'on a dit à propos de l'inspiration. Tout possible a une signification qui vient du sujet. Le possible que je pense dans l'inspiration a une signification. Et cette signification, elle provient du sujet. La réalité n'existe pas. Donc elle ne peut pas provenir de la réalité, elle vient du sujet qui est inspiré. La subjectivité transcendantale de l'intelligence. Je vous avais dit, à ce moment-là, on pourrait parler de la subjectivité transcendantale de l'intelligence. C'est vrai dans la connaissance poétique. C'est vrai dans la connaissance de l'inspiration. Il y a quelque chose à ce moment-là qui fait que le poète est inspiré. Et donc, dans le possible, il y a une signification. Une signification qui vient du sujet, mais il y a une signification. Alors, s'il y a une signification, la sélection ne se fait pas du côté de la vérité. Il n'y a pas de vérité dans l'inspiration. Elle ne se fait pas du côté de la réalité. La réalité n'existe pas. Je suis en face du possible. Donc, le critère est subjectif. Et il provient de ce possible qui est né à partir de la subjectivité transcendantale de l'intelligence, et ce possible a son contenu intellectuel, il a une certaine détermination, et c'est ce possible qui va lui-même s'imposer de plus en plus. C'est cette signification de ce possible qui va s'imposer. Alors, vous allez me dire, ils sont plusieurs, donc, oui, c'est vrai. Alors, pourquoi l'un et pas l'autre? Pourquoi l'un et pas l'autre? Bien, je crois que là, il n'y a pas de raison. Je crois qu'il n'y a pas de raison. Alors là, il peut se faire que des données très extérieures interviennent. Ça peut très bien se faire. Que des données tout à fait extérieures interviennent. J'aurais jamais fait ça s'il n'y avait pas eu telle ou telle chose qui était passée. Et on le reconnaît. J'étais très secoué. Et alors immédiatement, à ce moment-là, c'est cette chose-là qui s'est imposée à moi. J'étais très secoué. Vous voyez, il n'y a pas de critère. Parce que dans les possibles, comme ils sont nombreux, il faudrait qu'il y ait un possible premier. Or, comme toutes les significations sont subjectives, c'est le sujet qui la mesure. Or, le propre de l'inspiration, c'est justement de laisser l'intelligence se développer, elle-même proliférer. Elle prolifère dans l'inspiration. Et on ne va pas la commander, la téléguidée serait plus l'inspiration. Donc, c'est dans la subjectivité transcendantale de l'intelligence qui est la source. Il n'y a pas de possibilité de trouver une mesure. En disant, il y a un possible, il y a non. Chaque possible a son intérêt. Et c'est vrai. Chaque possible a son intérêt. Pourquoi tel ou tel? Alors je crois, des circonstances extérieures peuvent très facilement jouer là-dessus. Parce que je crois qu'on ne peut pas, au plan philosophique, mettre un ordre de priorité dans le possible. Ça me semble impossible, ça. Si vous le voyez, vous me le direz. Mettre un ordre à l'intérieur de ces possibles. Le seul ordre, c'est le sujet pensant, donc c'est l'intelligence de celui qui est inspiré, mais comme cette intelligence est prise dans sa subjectivité transcendantale, donc dans sa subjectivité fondamentale, elle est toujours la même. Pour toute inspiration, c'est la même. Donc je ne crois pas qu'on puisse prendre un ordre. Alors voyez, là peut intervenir des critères extérieurs. Comment? Alors, en fonction de la commande, il y aura tel possible qui apparaîtra comme. Vous voyez, en fonction de la commande. Je me laisse prendre, hein, on sait très bien. Un artiste n'aime pas les commandes. Ça peut se faire. Hein. Un artiste n'aime pas les commandes. Faites-moi une icône. Hein. Magnifique, extraordinaire, la plus belle que vous ferez de votre vie. Et puis vous me la donnerez. Hein. Comme ça, je verrai bien que vous allez penser à moi. La plus belle icône possible. Bon, alors, c'est très bien. Mais la plus belle, c'est laquelle? Au niveau des possibles, vous n'en savez rien. Au niveau des possibles, je suis en face de multiples possibles. C'est le propre des possibles. Il n'y a pas de hiérarchie dans la potentialité, dit Aristote. La hiérarchie se prend du côté de l'acte, pas du côté des possibles. Donc, il n'y a aucune hiérarchie du côté des possibles. Et alors ce seront des choses extérieures, des actes extérieurs, des circonstances extérieures qui viendront. Ce n'est pas une question de prudence, c'est une question d'attention à l'intelligence vis-à-vis de telle détermination. Et cette attention de l'intelligence vis-à-vis de telle détermination, c'est-à-dire vis-à-vis de tel ou tel possible, se fait en fonction de telle ou telle circonstance. Ce qui explique comment un artiste qui est complètement isolé pourra très bien ne pas arriver à déterminer. Mais la visite d'un ami, ce qui est fois suffira. Il dira, ah, heureusement que tu es venu, tu sais, je serais resté indéfiniment à réfléchir. Je ne sais pas ce que tu as dit telle chose, et puis ça m'a éclairé, ça a été suffisant pour moi, ça y est, à partir de là, j'ai choisi. L'option s'est faite. Vous voyez, ça peut venir d'un élément étranger, ça peut venir, je dis, d'une commande, d'un élément, n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas d'ordre dans les possibles. Il y a du plus et du moins, mais il n'y a pas d'ordre au sens absolu. Donc il n'y en a pas de premier. Il n'y a jamais de premier dans les possibles. S'il n'y a jamais de premier dans les possibles, et que tout d'un coup, il y a un choix créateur qui s'impose, il faut donc qu'il y ait une intervention extrinsèque. Et cette intervention extrinsèque a permis un petit déclenchement. Très curieux. Alors c'est peut-être ce petit déclenchement, vous voyez, que Platon veut montrer. C'est un petit déclenchement. Il y a des choses qui sont décantées, mais un petit déclenchement qui n'a aucune commune mesure avec l'événement qui est passé. Aucune commune mesure. C'est de l'intérieur que s'est fait ce déclenchement, ce passage du possible au choix créateur. Alors, le choix créateur, on va regarder maintenant ce que c'est que ce choix créateur. Ce choix créateur va se nouer autour de l'idéal. Ce qu'on appelle l'idéal. Au fond, il n'y avait pas d'idéal avant. L'idéal, c'est vraiment le fruit du choix créateur. C'est vraiment quelque chose que je porte en moi qui fait le projet. Que ce soit l'idéal, peu importe qui s'il y a qui soit le projet, c'est l'idéal. J'aime bien le terme idéal parce qu'il est philosophique. Projet est beaucoup moins philosophique. L'idéal, c'est philosophique. Il y a une idée. J'ai une idée. Ça y est, j'ai une idée. Ça y est. J'ai cherché longtemps, maintenant ça y est. Oui. C'est mieux autour de ça. Et l'idéal deviendra à ce moment-là bon exemplaire. C'est ça qui est très intéressant au point de vue philosophique. Alors la grande question au point de vue philosophique, c'est de se demander, est-ce que toute cause exemplaire implique une idéal? Ce que je crois. L'idéal est cause exemplaire. Quand j'ai dit cause exemplaire, vous voyez, il y a là quelque chose d'important à saisir, parce que la cause exemplaire ne se saisit parfaitement que dans l'art. La cause exemplaire ne se saisit pas parfaitement en éthique. C'est très dangereux d'avoir des modèles. Tandis qu'au contraire, dans la mode, c'est merveilleux. Vous avez des modèles tout le temps, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Parce que c'est au point de vue artistique, vous avez un modèle. Au point de vue moral, c'est très dangereux, vous vous cassez la tête. Quand vous avez un modèle dans la tête, ce frère, c'est déjà un saint. Un grand privilège pour moi, c'est d'avoir entré avec lui, d'être. C'est un saint, je n'ai qu'à le regarder, et puis tout de suite, tout se rectifie. Alors bon, très bien, je le suis, mais comme lui, il a beaucoup plus de santé que moi, moi j'essaie de faire le mieux possible, au début ça va encore, j'ai des réserves, mais au bout de 6 mois, 1 an, il n'y a plus de réserves. Alors, il y a lui qui continue, je fais ça. Quasi naturellement, je l'ai canonisé quasi naturellement, c'est un saint. C'est lui. Et alors j'essaie de le suivre, je me casse la tête. On n'a jamais le droit de prendre un autre pour être son modèle. On a le droit de coopérer avec lui, on a le droit de s'appuyer sur lui, on a le droit de réaliser un amour d'amitié. C'est déjà énorme, c'est merveilleux. Mais l'amour d'amitié ne fait jamais que l'ami est le modèle de son ami. Ce serait la mort de l'amour d'amitié. Et quand un mari veut être le modèle pour son épouse, eh bien c'est la mort de l'amour d'amitié. Pois-tu, au bout de 3 ans, il y aura de la haine. Parce qu'elle n'aura jamais su arriver à être adéquate à ce modèle. C'est de la haine qui conduit au divorce. C'est curieux, vous savez, on va contre des lois de nature, hein. Et alors, c'est très important de saisir ce que c'est que la cause exemplaire. La cause exemplaire, elle n'existe, je crois, que dans le choix créateur. Au sens fort. Elle n'existe qu'à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la cause exemplaire? La cause exemplaire est donc une causalité qui existe au niveau de l'intentionnalité. C'est la première chose qu'on doit dire. Elle n'existe pas dans le réel. C'est une causalité intentionnelle. Mais c'est une causalité intentionnelle parfaite. Quand je dis intentionnalité, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça revient à l'idée. Et l'idée, c'est quelque chose que je porte dans ma connaissance. C'est quelque chose que je porte en moi-même. Donc, c'est une forme intentionnelle, l'idéal. C'est une forme intentionnelle que je me suis forgée moi-même, ou que mon intelligence s'est donnée, cette forme intentionnelle qui va devenir mesure. C'est ça qui est si curieux. Dans la cause exemplaire, la connaissance devient mesure. C'est-à-dire que la connaissance devient prototype et elle commande l'exécution. C'est la causalité exemplaire, c'est l'idéal qui va commander toute l'exécution. Toute l'exécution est dans l'ordre de l'efficacité. Alors que la cause exemplaire est dans l'ordre de l'intentionnalité, c'est l'intentionnalité qui va commander l'exécution. Quand je dis commander l'exécution, je devrais dire canaliser l'exécution. En réalité, la forme intentionnelle ne peut que déterminer. C'est là sa faiblesse. Je ne peux pas commander. La causalité exemplaire va s'imposer à toute l'exécution. Et elle va s'imposer de l'intérieur pour orienter, pour ordonner, pour corriger. Mais je ne peux pas dire cette causalité exemplaire, ce que j'ai choisi, doit être pour moi une source au point de vue de la finalité ou au point de vue tout simplement de la réalisation. Je dois faire appel à autre chose pour réaliser. Je fais appel au travail. Jamais l'idéa passera directement à l'œuvre. Il n'y a que Dieu qui est créateur par sa cause exemplaire. Et moi, je ne suis jamais créateur par ma cause exemplaire. Je peux la contempler, la regarder, mais je ne peux pas devenir vraiment. Vous voyez, je ne peux pas passer à la réalité directement par la cause exemplaire. Il faut passer par le point de vue du travail. C'est là où, de fait, il y aura quelque chose de nouveau qui va intervenir.
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.